Il est midi 31. Le journal avec vous, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Deux explosions viennent de retentir sur le site du groupe chimique français Arkema au Texas, qui est frappé depuis plusieurs jours par la tempête Harvey. Le groupe avait évoqué ce matin un risque d'incendie en raison de l'arrêt du système de refroidissement causé par des coupures d'électricité. Précision dans un instant avec Tara Schlegel. Le Premier ministre Édouard Philippe, la ministre du Travail Muriel Pénicaud dévoilent le contenu des ordonnances pour réformer le code du travail, des indemnités prud'homales qui seront plafonnées, le délai de recours au prud'homme limité, quelques-unes de ces mesures. Donc précision dans un instant avec Marie Vienno. Parmi les premières réactions syndicales, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, se dit déçu par ces arbitrages. Il estime que le gouvernement a raté le coche. Toutes les craintes que nous avions sont confirmées, déclare de son côté Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Ce même jour, le chef de l'État s'exprime longuement dans une interview au Point, dans laquelle il détaille ses ambitions pour, dit-il, refaire de la France une grande puissance internationale, tout en réalisant des réformes de grande ampleur, compte rendu de ce long entretien avec Frédéric Seyss et Nadine Epstein. Et puis la réaction du républicain Éric Woerth, on a le sentiment que le président ne peut pas laisser ses ministres s'exprimer librement, puisqu'il y a concomitance donc entre l'annonce des ordonnances et cette interview. On entendra M. Woerth, qui était ce matin sur France Inter, l'invité de la séquence interview. On sera en ligne avec Jacques Attali, le président de la Fondation Positive Planète, dans la dernière partie de la Grande Table. Olivia Gesbert.
C'est un plaidoyer pour la liberté. Répondre au terrorisme sans perdre la raison, ça veut dire sans se laisser complètement dévorer par nos affects et surtout nos émotions. François Sureau est notre invité à partir de 12h55 pour en parler.
On commence donc par cette nouvelle illustration de l'imbrication potentiellement catastrophique des risques naturels et industriels. Deux explosions qui viennent de retentir donc sur le site du groupe chimique français Arkema, donc au Texas. Un État des États-Unis frappé depuis plusieurs jours par la tempête Harvey, on le sait. Actuellement, une fumée noire s'échappe de cette usine. Et le groupe avait effectivement précédemment fait savoir qu'il y avait bien un risque d'incendie parce que le système de refroidissement était à l'arrêt, car il n'y avait plus d'électricité, évidemment, cause des inondations. Tara Schlegel, vous avez des précisions sur cette catastrophe, en tout cas, qui, pour l'instant, semble se dérouler presque inexorablement.
Oui, l'usine Crosby se situe, Antoine, à une quarantaine de kilomètres de Houston, et avant même l'arrivée de l'ouragan, elle dit avoir pris des mesures de sécurité, mais visiblement en vain. Depuis vendredi, la production a été stoppée, la quasi-totalité des 57 employés évacués, des générateurs de secours prêts à fonctionner, mais dimanche matin, tout le circuit électrique premier et secondaire a été coupé par l'inondation. Alors les jerrycans de peroxyde organique ont été transférés dans 8 isoconteneurs réfrigérés installés sur des camions eux-mêmes dirigés vers le point le plus haut de l'usine chimique. C'était le plan, mais comme l'eau est montée à plus d'1,80 m, eh bien les moteurs des camions ont à leur tour été noyés. Dès lors, le scénario catastrophe était inévitable. Ces liquides doivent être maintenus à une température inférieure, en gros à 20 degrés, et il fait 34 aujourd'hui à Houston. Il faut savoir que la plupart des peroxydes organiques contiennent 2 atomes d'oxygène et du carbone qui agit comme un carburant. Ils sont chimiquement instables, ils explosent sous l'effet d'un faible apport de chaleur et parfois même d'un simple choc. Bref, la direction savait que l'incendie se déclencherait. Alors en France, Arkema, qui est quand même le numéro 1 de la chimie tricolore, anciennement Elf Atochem, a une cellule de crise en lien avec le Texas, souligne qu'il y a 12 sites qui produisent ces peroxydes dans le monde, mais aucun dans l'Hexagone. Et au Texas, le directeur a présenté ses excuses à tous les habitants. Il s'est félicité qu'il n'y ait aucune école, aucun hôpital à proximité. Les bâtiments à 2,5 km à la ronde ont été évacués. Il faut quand même savoir que ces fumées sont très épaisses, mais qu'elles ne sont pas extrêmement toxiques.
Merci beaucoup, Tara Schlegel. Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dévoilaient donc ce matin le contenu des ordonnances aux partenaires sociaux. Et en ce moment, c'est le chef du gouvernement et la ministre qui parlent de ces arbitrages dans une conférence de presse. On retrouve sur place Marie Vienno. Bonjour.
Bonjour.
Donc on connaît maintenant l'essentiel des contours de cette réforme du droit du travail.
Alors, pas vraiment, parce que la réunion avec les syndicats de salariés et les syndicats d'entreprise s'est achevée il y a 20 minutes. Et ensuite, quand Édouard Philippe est arrivé à la tribune, il a parlé lui aussi pendant 20 minutes, mais essentiellement pour présenter la philosophie de ces transformations, également expliquer que la concertation avait été, il a longuement détaillé quelle avait été la concertation et le fait que tout le monde avait bien été consulté. Alors, la situation est un peu ubuesque parce que d'un côté, donc, sous les ordres d'une grande salle, tout le monde note debout et Édouard Philippe évoque donc ce processus de concertation. Et à 10 mètres plus loin, à l'extérieur, les syndicats sortent et donnent leurs sentiments aux journalistes qui se divisent donc en deux camps et moi qui faisais donc des allers-retours entre les deux. Pour le moment, donc, aucun point précis n'a été évoqué ni par le Premier ministre ni par la ministre du Travail. Deux syndicats sont déjà sortis, la CFTC et la CGT. La CFTC plutôt constructive dans l'esprit et la CGT en revanche très inquiète. C'est la fin du contrat de travail, a déclaré Philippe Martinez. Toutes ces craintes sont confirmées selon lui. Tout est possible par accord majoritaire dorénavant. Il a répété ça plusieurs fois. Autrement dit, la rémunération, le temps de travail, les conditions d'embauche et de licenciement. Mais pour les annonces, à cette heure-ci, je ne les ai pas encore parce qu'on est toujours en train de parler de la philosophie du programme. Et donc finalement, les seuls éléments qu'on peut donner maintenant, ce sont des éléments qui ont été publiés par un document qui a été donc publié par Libération et donc serait acquis, hein, bien sûr, au-delà des éléments que j'ai déjà invoqués, l'idée de plafonner les indemnités prud'homales. Seulement, il va falloir faire tourner les calculettes une fois qu'on aura les chiffres pour savoir si cela va vraiment au-delà des indemnités moyennes qui étaient données actuellement. Ce qui est acquis aussi, donc, le périmètre national pour juger des difficultés économiques d'une entreprise. La loi El Khomri, vous vous souvenez, avait tenté de le faire passer, mais cela avait été retiré. Cette fois, donc, ce serait bon. Ça va donc surtout favoriser les grandes entreprises qui sont implantées de plusieurs pays et peuvent faire jouer avec des avocats fiscalistes le périmètre de leurs résultats pour s'organiser ainsi. Mais à l'heure actuelle, honnêtement, voilà, je n'ai pas d'annonce du gouvernement à vous faire.
Merci
beaucoup de choses parce qu'on en a tellement parlé, mais pas de point vraiment déclaratif venu du gouvernement pour le moment.
Voilà, on attend donc la fin de cette conférence de presse. Laurent Berger pour la CFDT, dans une interview au Monde, se dit déçu en tout cas par ces arbitrages. Le gouvernement a raté le coche, dit-il. Profonde déception, notamment sur la modernisation du dialogue social. Des mesures nous inquiètent, comme la possibilité de passer au référendum dans les entreprises de moins de 20 salariés. Et Jean-Claude Mailly, de Force Ouvrière, de son côté, affirme ne pas encore avoir d'avis définitif. Il déclare vouloir examiner l'ensemble de ce texte pour porter un jugement, mais il dit quand même que le débat va avoir lieu. Tout n'est pas parfait, mais heureusement que nous avons fait notre travail. Quant à Philippe Martinez, vous le disiez tout à l'heure, Marie Viennot, il déclare que c'est la fin du contrat de travail, car soit vous serez d'accord, soit vous serez licencié. Fin de citation. En tout cas, ce texte-là était une réforme, un chantier majeur pour le chef de l'État qui avait promis une transformation profonde. Stéphane Robert,
oui, bonjour.
Il n'est pas trop tôt pour s'interroger sur les conséquences politiques de cette réforme. Les ordonnances, en tout cas, sont entrées rapidement en application. Sur le plan du calendrier, Emmanuel Macron a bien réussi cette opération, présentée parfois comme une blitzkrieg sociale.
Oui, il a fait précisément ce qu'il avait annoncé sur la forme et sur le fond. Sur la forme, puisque le calendrier est respecté, des ordonnances présentées à la fin de l'été qui seront votées dans le courant du mois par les députés. Et sur le fond, puisqu'elles contiennent là encore peu ou prou ce qui avait été annoncé, on le verra sans doute un peu plus tard dans le courant de l'après-midi. Et le chef de l'État revendique cette forme de précipitation dans l'adoption de cette réforme, notamment dans l'interview qu'il accorde au journal Le Point ce matin. Il faut la réaliser tout de suite, explique-t-il, car cela met du temps à se décliner dans les comportements et à produire ses résultats. Il le chiffre même entre 18 et 24 mois pour infuser, dit-il, un an et demi à deux ans donc. Jusqu'ici, tout va bien donc pour Emmanuel Macron, puisque ça n'a au bout du compte pas suscité de vives oppositions de la part des syndicats. Pour autant, il s'inquiète quand même un peu de l'impact à venir dans l'opinion de ces premières mesures concrètes découlant de l'exercice macronien du pouvoir. Et il anticipe les éventuelles déceptions, voire les futures oppositions, en inscrivant cette première réforme dans une perspective beaucoup plus large. Car ce qu'il prétend en thème là, c'est une révolution copernicienne, dit-il, la fin de 30 années d'impuissance du pouvoir en France. Avec ces mesures et celles qui vont suivre, il entend libérer les énergies. Il parle même d'accélérer le processus schumpeterien de destruction créatrice. Et ça afin d'adapter le pays, plus précisément son économie au monde qui vient. On est là dans la construction d'un récit collectif qu'Emmanuel Macron estime nécessaire au bon fonctionnement d'une société. Il y a là la volonté de fixer un cap tout en réenchantant le discours politique. Il faudra quand même qu'à un moment ou à un autre, ce discours corresponde un tant soit peu à la réalité.
Stéphane Robert, merci.
Le jour même de l'annonce du contenu de cette réforme du droit du travail, le chef de l'État a choisi de s'exprimer longuement, Antoine Mercier, dans une interview au Point.
Oui, plus de 20 pages, donc on le disait, Emmanuel Macron qui détaille ses ambitions pour refaire de la France une grande puissance internationale, un pays fier qui sorte de l'esprit de défaite, déclare-t-il, tout en réalisant des réformes de grande ampleur sur tous les fronts, éducation, code du travail, aide sociale, fiscalité, logement, sécurité. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc lu évidemment cette longue interview pour nous. Le chef de l'État se présente un peu comme le héros des temps nouveaux en lutte contre les forces du monde ancien.
Et il reprend en cela la rhétorique de sa campagne sur l'opposition entre les insiders et les outsiders, ceux qui seraient dans les faits inclus, formés, sécurisés dans l'emploi et ceux qui seraient marginalisés, sans voie d'accès et sans espoir d'y parvenir. Emmanuel Macron nomme ce dernier public, je le cite, les jeunes, les personnes peu formées, les immigrés et les descendants d'immigrés. Pour que ces derniers entrent sur le marché du travail, il faut plus de mouvement, explique-t-il, dans les deux sens, d'où la flexibilisation du marché du travail qu'on évoque à l'instant. Mais la vision développée ici va au-delà. Emmanuel Macron décrit une société rongée par l'angoisse, menacée par le terrorisme, qui entraîne, dit-il, un risque de guerre civile. Et le meilleur moyen de lutter contre le moteur de la haine et des ressentiments, c'est ce qu'il explique entre les lignes, c'est précisément d'abolir cette frontière entre les insiders et les outsiders. Il oppose aussi, dans la même perspective, les jeunes et les retraités, notamment pour justifier la hausse de la CSG, qui touchera, vous le savez, sans compensation, les retraités qui touchent davantage de 1 200 euros. Bref, ce sont deux mondes qui sont opposés tout au long de cet entretien, sans qu'on puisse être sûr à la lecture de ces lignes que finalement déshabiller l'un permettrait d'habiller l'autre.
Politiquement, il affirme aussi que l'enjeu réside bien dans la réussite de son action ou bien le retour à l'ancien monde, celui des partis politiques.
Et les forces du monde ancien sont toujours là, bien présentes, toujours engagées dans la bataille pour faire échouer la France, attaque le chef de l'État dès sa première réponse. Il dit observer un réveil des oppositions multiples, des vieux partis et des vieux alliés. Alors dans les faits, il ne dit pas un mot du PS, pas plus que les Républicains à droite, comme si ces deux formations qu'il a lui-même consciencieusement divisées ne pesaient plus grand-chose sur le débat public. Il évoque en revanche Jean-Luc Mélenchon qu'il accuse de ne disposer d'aucune solution pour mettre un terme au malaise social. Il évoque également le Front National. Il reconnaît avoir été élu aussi par le simple barrage que voulaient dresser certains électeurs. Et cela n'est pas fini, met-il en garde à la fin de l'entretien. Je suis le dernier recours.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. On est en ligne avec Jacques Attali. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
On va parler avec vous demain, peut-être, de cette réunion, ce forum que vous organisez à l'île Séguin, à Boulogne-Billancourt, le Global Positive Forum. Mais évidemment, d'abord, un mot de cet entretien de ce matin, de son esprit général, de sa philosophie. J'imagine que vous êtes en phase avec ce que monsieur Macron affirme.
Je n'ai pas lu l'entretien, donc je ne peux pas juger ce qu'il en dit, mais je suis toujours en phase avec l'idée de penser le long terme, qui est l'objectif même de ce forum, c'est-à-dire penser dans l'intérêt des générations suivantes. Donc quand un président de la République affirme une vision à long terme, il fait son devoir, son travail. L'objectif d'un président, c'est de donner un cap. Je ne sais pas si je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, puisque je ne l'ai pas lu, mais j'approuve le fait de donner une direction générale et d'inscrire une action dans une vision de long terme du pays.
Oui, il y a quand même une notion dont on a beaucoup parlé, dont il a beaucoup parlé lui-même avant, cette notion d'insider et d'outsider. Il dit le système français protège bien les insiders, ceux qui bénéficient donc d'un contrat stable, mais c'est au prix de l'exclusion complète des autres, les plus jeunes, les moins qualifiés. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les protections de ceux qui bénéficient d'une certaine stabilité professionnelle sont la cause de l'exclusion des autres ?
Je pense que oui, d'une certaine façon, et ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi, pour ma part, j'attache beaucoup plus d'importance à la formation à l'école et la formation à l'université et la formation permanente et à l'apprentissage qu'aux mesures qui pourraient faciliter le licenciement, qui ne me paraissent pas, pour ma part, la solution au problème du chômage. La solution au problème du chômage viendra d'une meilleure formation et d'une meilleure formation permanente. Donc j'attends avec impatience la publication des textes suivants sur la formation professionnelle des chômeurs, qui à mon avis est la clé, et sur la formation permanente de tous, dont j'espère qu'elle sera de plus en plus confiée aux universités et pas à des organisations de formation privées, de façon à créer une continuité et que les universités soient chargées aussi de suivre le destin de leurs anciens élèves, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui.
Alors, chef de l'État parle de...
Que les ordonnances qui faciliteront des licenciements que, pour ma part, je trouve aujourd'hui pas si difficile que ça, même s'il y a sûrement des choses à régler par des licenciements abusifs ou des congés maladie excessifs ou prolongations de durée du travail qui ne sont pas méritées.
Le chef de l'État parle quand même de révolution copernicienne en matière de travail et d'emploi. C'est-à-dire qu'il dit que le chômage ne doit plus être un accident de la vie, mais un risque d'autant plus prégnant que le besoin de transformation professionnelle s'accentue. C'est presque en positive le fait d'être au chômage, puisque c'est le signe qu'on est en mutation vers autre chose. Est-ce que ce n'est pas un peu abusif malgré tout sur le plan de la réalité sociale de ceux qui n'ont pas de travail ?
C'est pourquoi je pense, et je l'avais écrit dans un rapport dont l'actuel président de la République était le rapporteur, il faut transformer complètement la notion de chômage et faire en sorte que toute personne au chômage soit en formation. Et comme on considère que toute personne étant en situation de fragilité parce qu'elle est malade mérite une rémunération pour se soigner, je pense que toute personne se formant mérite un salaire parce qu'elle est utile à la société en se formant. Et donc si tout chômeur était en situation de se former, il ne serait plus chômeur dans la durée où il se forme. Donc le chômage ne serait plus en soi une période traumatisante, mais une période de valorisation, de changement, d'apprentissage. Nous ne sommes pas dans une société figée, cristallisée, où rien ne change. Tous les jours, tout change dans nos vies personnelles, comme dans la technologie, comme dans le monde, et vous êtes chargé tous les jours d'en rendre compte, et vous voyez qu'il faut en rendre compte maintenant toutes les 10 minutes. C'est vrai aussi dans le monde du travail, il faut que tout change à toute vitesse, et pour ça, c'est pas la question de savoir si on est stable, parce que même ceux qui ont l'illusion d'avoir un métier stable ne n'ont pas un métier stable, ils changent tout le temps. Et il faut au contraire créer des conditions pour apprendre en permanence, ce qui rend d'ailleurs devrait rendre les métiers à la fois plus valorisants et plus intéressants pour tous.
Jacques Attali, on vous retrouve dans quelques minutes, si vous voulez bien, pour parler donc plus précisément de ce Global Positive Forum que vous organisez demain sur l'île Séguin.
Midi 47 sur France Culture, la suite de votre journal. Antoine Mercier, le chef de l'État, consacre une bonne partie de son entretien au point à la politique internationale. Il veut refonder une Europe qui protège, au plan commercial comme au plan de la défense, qui puisse se comparer aux puissances américaines et chinoises et devenir leader du monde libre.
Et oui, il veut aussi convaincre les pays de la zone euro de se doter d'un budget commun qui représenterait plusieurs points du PIB pour pouvoir emprunter, investir à grande échelle, donc sur le continent européen. La France ne doit pas être une grande puissance moyenne, mais une grande puissance tout court. Nadine Epstein, c'est vrai aussi par rapport à la politique extérieure dans cette région difficile du Proche-Orient.
Oui, Emmanuel Macron répète ce qu'il avait dit devant les ambassadeurs de France. La priorité de notre politique internationale doit être notre sécurité. Pour cela, le chef de l'État veut que la France amène l'Europe à devenir leader du monde libre qui défend la démocratie, la paix et le climat. Par pragmatisme et pour exister, Emmanuel Macron veut parler avec tout le monde puisque l'objectif principal est la lutte contre le terrorisme. L'hôte de l'Élysée assure avoir établi un dialogue franc avec le Qatar et l'Arabie Saoudite sur la question du financement du terrorisme, puisque ces deux pays ont aidé des groupes qui sont liés au terrorisme. Pour lui, la victoire sur le djihadisme est un défi militaire mais aussi politique. Il nous faut résorber cette béance entre le monde chiite et le monde sunnite, cette guerre civile du monde musulman qui s'exporte dans nos sociétés et nourrit le terrorisme. Globalement, Emmanuel Macron reproche à l'Occident un interventionnisme au Moyen et Proche-Orient et en Afrique du Nord qui, selon lui, a durant ces 10 dernières années favorisé la montée de régimes autoritaires comme l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Iran et la Russie. Pas un mot du président de la République sur la chute de plusieurs dictatures arabes, absent aussi du vocabulaire présidentiel les droits de l'homme. Par exemple, concernant le président turc, Emmanuel Macron ironise « Je suis aussi celui qui est obligé de parler tous les 10 jours à Erdogan ». Et concernant la Syrie de Bachar al-Assad, le chef de l'État fixe deux lignes rouges, les armes chimiques et les accords humanitaires.
Merci beaucoup Nadine Epstein. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette longue interview au point du chef de l'État. Retour maintenant à 12h50 vers notre invité Jacques Attali. Vous organisez donc ce forum qui s'appelle le Global Positive Forum, je le disais, la révolution positive vise à agir dans l'intérêt des générations futures, peut-on lire dans le programme. Déjà, des initiatives positives fleurissent dans le monde entier, incarnent la révolution positive en cours. Il est temps de l'accélérer. Votre exposé introductif, Jacques Attali, s'intitule « L'intérêt des générations futures au cœur de cette révolution positive et de la réalité de la France positive ». Bref, vous êtes vous-même le président de la fondation Positive Planète. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'on trouve quand même quelques accents orwelliens, disons, dans cette façon de présenter les choses ?
Alors là, vraiment, je vois pas le moindre rapport avec Orwell. Je vous l'expliquerai un jour, parce que j'ai... Orwell, c'est tout à fait autre chose. Orwell, c'est la description d'un monde épouvantable. Ici, il s'agit de penser que chacun d'entre nous peut, dans sa vie personnelle, créer les conditions de vivre un monde meilleur. Est-ce que... Je vois pas ce qu'il y a d'orwellien là-dedans. Ce que nous essayons de faire, c'est de rassembler les ceux qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes et penser que le monde de demain peut être meilleur. Alors, si vous pensez qu'être orwellien... Non, mais... Ça veut dire penser que demain, ça peut être meilleur qu'aujourd'hui. Bienvenue au club des déclinistes, des régressionnistes, des populistes, des autarcistes.
Voilà, bah on peut quand même...
Les Juifs en Corée du Nord, si c'est ça votre projet, on en reste là.
Voilà, non, mais je veux dire que quand on utilise ce terme de positif, de positive attitude, etc., il y a quand même quelque chose qui est un comportementalisme, on va dire, plus qu'une analyse de fond.
Il y a quelque chose de positif qui est de penser que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui et qu'hier.
Oui, ça, c'est sûr.
Mais possible.
Nous sommes d'accord.
Voilà. Alors, si nous sommes d'accord, c'est rien d'orwellien. Justement...
Comment y arrive-t-on ? C'est ça la question. Comment y arrive-t-on à ce monde meilleur ? C'est là où les questions peuvent commencer à se poser.
Les questions, bien sûr que c'est pas facile. On y arrive en y pensant, en prenant le risque de se tromper et en faisant des choses. Et ce que nous rassemblons demain, c'est justement toute une série de gens qui ont commencé partout à travers le monde, soit modestement, soit moins modestement, que ce soit des petites ONG perdues au fin fond du Brésil, de l'Argentine, des Philippines ou de l'Afrique, et qui travaillent humblement, comme nous le faisons nous sur le terrain dans les 40 pays où la Fondation se trouve, à aider les gens à se prendre en main, à ne pas dépendre de la charité, à ne pas se laisser aller à la misère, à la violence et au fanatisme.
Alors prenons quelques exemples peut-être pour entrer dans les choses concrètes et mieux comprendre cette démarche positive.
Par exemple, si vous venez demain, vous entendrez le docteur Mukwege qui, dans un hôpital au fin fond du Congo, travaille magnifiquement à aider les femmes qui ont été maltraitées dans la violence de la situation de guerre civile. Vous entendrez Tony Melotto qui vient des Philippines et qui a créé toutes les conditions de récupérer et de gérer les déchets plastiques dans des bonnes conditions pour donner du travail et éliminer ces déchets. Vous entendrez un jeune Hollandais qui a créé les conditions d'essayer de lutter contre les déchets plastiques qui nuisent et détruisent les océans. Vous entendrez Thomas Pesquet qui a porté un rêve de conquête de la planète et au-delà de la planète, de montrer que la planète est unie en allant la voir de l'autre côté des étoiles. Vous entendrez 70 personnes qui portent ce projet. C'est ça le monde positif. C'est une accumulation de choses qui n'est pas simplement le récit permanent des fanatismes, des misères, des attentats suicides et de tout ce qui fait la réalité de la face noire de la planète.
Est-ce que c'est une philosophie, une idéologie ou simplement un état d'esprit, cette pensée positive ?
Le mot idéologie a pris une connotation négative à tort. Le mot philosophie conserve une connotation positive. Le mot état d'esprit dit la même chose, donc je vois pas de contradiction entre les trois mots. C'est un état d'esprit qui consiste à penser que sa vie dépend de soi, qu'on doit se prendre en main, n'attendre rien de personne, qu'on a aussi une responsabilité sur la vie des générations suivantes, que c'est notre responsabilité, qu'elle nous appartient, que c'est à nous à le faire.
Oui, ça c'est les individus, mais alors qu'est-ce qui reste du collectif, finalement, de la responsabilité, de la puissance publique ?
Il n'y a pas de collectif qui ne soit pas un ensemble d'individus.
Oui, mais c'est pas seulement la somme des individus non plus, le collectif. Ça va au-delà.
Exactement cela. C'est la somme des individus en charge du destin commun.
Ah, vous dites que le collectif est égal à la somme des individus.
Le collectif est la somme des individus parce qu'il n'y a pas de collectif. Sinon, on en vient exactement à ce monde orwellien que vous avez défini à l'instant, monsieur, dans lequel le collectif se distingue des individus pour être une totalité.
Oui, mais ça, c'est pas pareil d'avoir 10 fois un homme que 10 hommes regroupés, par exemple. Ça crée une dimension différente.
Qui forme une entité qui soit séparée des 10 hommes et de ce qu'il porte pour l'avenir, c'est ça qui est totalité.
Et les bénéfices de la finance positive aussi, parce que vous avez un chapitre, un acte en tout cas, demain.
La finance positive, ça consiste à penser la finance comme étant non pas au service du profit immédiat, comme les hommes politiques ne sont pas simplement aux charges de leur popularité, mais de l'intérêt des générations suivantes. C'est-à-dire une finance qui s'intéresserait, et ça commence à venir, à penser qu'elle est là pour créer des investissements en matière de santé, d'éducation, d'environnement durable. Ça commence à exister sous forme de ce que on peut appeler, si on prend un langage un peu oxymoresque, le capitalisme patient, parce que le capitalisme est impatient. C'est d'ailleurs l'ironie du monde, hein. Les pauvres sont patients et les riches impatients, alors que ça devrait être l'inverse. Il n'y a pas assez d'indignation dans ce monde. Des pauvres et trop d'indignation ou d'impatience et de caprice des riches. Et la finance positive, c'est celle justement qui inverse cette logique et qui fait qu'on donne avec impatience les moyens aux pauvres de se développer. C'est ce que nous faisons avec la microfinance et qu'on fait comprendre aux riches qu'ils ont le temps devant eux et qu'ils devraient, les riches et les puissants, c'est-à-dire tous ceux qui rassemblent les ressources collectives, les États comme les fonds d'investissement, pour créer les grandes infrastructures qui manquent à la planète.
Global Positive Forum, c'est donc le titre de ce forum qui aura lieu demain. Jacques Attali, merci beaucoup à la scène musicale sur l'île Séguin, Boulogne-Billancourt, sous le haut patronage du président de la République. Une journée agitée au niveau météorologique avec des pluies souvent soutenues, localement orageuses sur une bande qui va de l'est des Pyrénées et du golfe du Lion au massif central et jusqu'au nord-est. Il y a deux départements du centre-est qui restent par ailleurs encore en vigilance orange canicule, c'est la Loire et le Rhône, mais le rafraîchissement va se faire sentir cet après-midi sur la plus grande partie du pays, des maximales qui vont se limiter à 17 et 22 degrés en général, 20 à 25 près de la Méditerranée, encore quand même 28 à 31 degrés de la Côte d'Azur à la Corse. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.